Bonjour, merci d'écouter Le Grand Face-à-Face en direct jusqu'à 13h avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, nous reviendrons sur les temps forts de la semaine avec le duel, suivi du débat. De quoi Angela Merkel est-elle le nom ? Bientôt, fin de partie pour la chancelière allemande. Ce n'est qu'une question de mois maintenant pour celle qui achève son quatrième et dernier mandat à la tête de l'Allemagne. Et un premier bilan dans le grand face-à-face de la politique, des grandes orientations qu'elle a portées à l'échelle de son pays, bien sûr, et de l'Europe. Est-ce qu'il existe quelque chose comme un merkelisme ? Nous voulions en parler justement ce 8 mai, jour de défaite ou de libération pour l'Allemagne, il faudrait même dire pour les deux Allemagnes et leurs deux mémoires différentes. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec l'une des meilleures spécialistes des questions européennes. Elle connaît parfaitement l'Allemagne et elle a consacré une biographie passionnante et très informée à cette femme puissante, comme dirait Léa Salamé. Cette femme née dans un pays aujourd'hui disparu et qui s'est retrouvée à la tête de la première puissance européenne. Marion Van Rettergem publie « C'était Angela Merkel » aux éditions Les Arènes et elle nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Qu'est-ce que vous avez en tête le 19 mai prochain, la libération, ou le 10 mai 81, dont nous allons parler immédiatement, Gilles?
Dans l'immédiat, le 10 mai, et je ne sais toujours pas ce que je ferai le 19, puisque vous m'aviez posé la question la semaine dernière.
Et je la pose également à Natacha Polony. Que vous ferez-vous le 19 mai?
Le 19 mai, je pense que comme beaucoup de gens, je vous l'ai déjà dit, j'essaierai de trouver une place en terrasse.
Dans la dernière fois, je crois que vous disiez que vous iriez au musée.
Non, j'avais été honnête.
C'est vrai.
Parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du patrimoine dans la façon dont les Français conçoivent la sociabilité à travers les restaurants et les bistrots. C'est culturel.
C'est culturel et c'est une culture très largement partagée malgré tout à travers le monde. Ce n'est pas une exception française.
Il y a une façon de le faire en France qui est très particulière.
J'ai hâte de la redécouvrir. Et pour commencer, en tout cas, une date plus lointaine, le 10 mai 1981, un héritage et 40 ans d'histoire.
Si on retiendra une chose de François Mitterrand, peut-être rien qu'une, c'est que c'était le président qui a élargi les libertés. Et ça, c'est le rôle de la gauche. Moi-même, je l'ai fait pour le mariage pour tous, ou pour un certain nombre de droits qui ont été donnés à des minorités. Mais il est très important de ramener la gauche à ce qui est son message, la liberté et la justice sociale.
D'un président à l'autre, d'un François à l'autre, c'était François Hollande hier sur France 3. Et l'ancien président parlait de son prédécesseur, de celui qui fut le premier socialiste à être élu président de la 5e République, François Mitterrand. Une exposition sera inaugurée le 10 mai à Paris. Un rassemblement est prévu place de la Bastille avec les ténors de cette histoire, ceux qui vibrent encore dans les souvenirs de l'histoire de cette gauche. Natacha, vous avez consacré une dure à ce 40e anniversaire dans Marianne. 10 mai 1981, 10 mai 2021, 40 ans, les 40 trahisons de la gauche, c'est la couverture de Marianne. Qu'est-ce que cette date du 10 mai représente pour vous ?
Je pense qu'elle représente énormément d'espérance. Et je suis très frappée par l'extrait que vous avez choisi de François Hollande, parce qu'il résume l'immense malentendu et il résume à peu près notre une. C'est-à-dire que François Hollande fait de la gauche uniquement celle qui doit élargir les libertés. C'est-à-dire qu'il parle même pas d'émancipation, qui est pourtant le terme, à mon avis, le plus essentiel pour définir la gauche. Il parle d'élargir les libertés et, bon, il rajoute à la fin quand même les questions sociales. En fait, ça résume vraiment ce que nous avons fait dans Marianne, c'est-à-dire un classement qui est très intéressant, puisque c'est la rédaction de Marianne qui a classé, et qu'en fait, les trahisons qui arrivent en premier, ce qui montre un peu la coloration de cette rédaction, ce sont les trahisons de l'idéal social. À la fois à travers les questions européennes qui, en fait, sont celles du néolibéralisme, c'est-à-dire l'imposition du libre-échange, du néolibéralisme, l'acceptation d'une mondialisation dérégulée qui a tué l'idéal de la gauche. Alors bien sûr, ce qu'on...
Ça, c'est pas le 10 mai 1981.
C'est tout ce qui a suivi. Et justement, le 10 mai, c'est pour ça que c'est très important de le rappeler. Le 10 mai 81, c'est un message d'espoir extraordinaire. Enfin, la gauche arrive au pouvoir avec un programme, le programme commun, qui est extrêmement clair sur le projet, sur les conquêtes sociales à faire, certaines ont été accomplies, à travers notamment les nationalisations, à travers, là aussi on l'oublie trop souvent, mais l'extension du droit des salariés dans les entreprises, c'est majeur. L'extension du droit des femmes, le travail d'Yvette Roudy a été absolument formidable de ce point de vue-là. Donc il y a plein de choses véritablement essentielles et qui ont changer la vie, pour reprendre le titre du programme commun de la gauche.
Ouais.
Et puis, il y a ces trahisons qui arrivent assez vite, ces renoncements à travers... Alors évidemment, le symbole, c'est 1983 et le fameux tournant de la rigueur dont l'analyse même sémantique est intéressante, puisque certains ont parlé de parenthèse libérale qui ne s'est jamais refermée, en fait, c'est-à-dire qu'on atténue dans ces cas-là. Mais le bilan, avec 40 années de recul, est tout de même assez terrible.
Gilles Finkelstein.
Bon, je ne partage pas là tout à fait ce que dit Natacha Polony, ce qui ne vous surprendra pas, mais avant d'en venir au bilan, un mot sur le moment, c'est-à-dire sur ce qu'est le 10 mai et la raison pour laquelle 40 ans après, on le commémore. Il y a ce que vous avez évoqué, Ali Badou, c'est-à-dire le fait que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président socialiste ait été élu. Mais je crois qu'il y a autre chose qui est que dans notre mémoire, en tout cas dans la mémoire de ceux qui ont vécu cet événement, et là, eh bien, il y a entre nous, les 10 ans d'écart qui nous séparent, moi et Ali et Natacha d'un autre côté, font qu'on n'a pas vécu par la force des choses, cet événement de la même manière, parce que moi j'avais 18 ans le 10 mai, c'est l'intensité des émotions. Et je dis des émotions, parce que Natacha parlait de l'espérance, il y a eu pour une partie importante de la population une forme d'exaltation, de bonheur, un sentiment de libération, d'être enfin représenté, d'avoir enfin gagné une élection, de penser que les choses allaient vraiment changer. Mais pour une autre partie de la France, il y avait de la même manière un sentiment de désolation. La crainte qu'une horde de profs barbus, incompétents et irresponsables allait jeter la France dans un déclin irréversible. Et c'est cette intensité des émotions qui fait que 40 ans après, le 10 mai résonne à ce point. Et si on essaye de comprendre pourquoi il y a eu cette émotion, cette intensité d'émotion-là, oui. Il y a un élément conjoncturel qui est que on était dans un monde très différent. On n'avait pas la même production de sondages qu'aujourd'hui, et donc l'élection de François Mitterrand a constitué une surprise. Je regardais les chiffres un an avant l'élection, c'est-à-dire exactement au moment où nous sommes. Les sondages donnaient au deuxième tour de l'élection présidentielle 39% à François Mitterrand contre 61% à Valéry Giscard d'Estaing.
Un an avant son élection.
Un an avant, et il y avait beaucoup moins de sondages, peu de temps avant le 10 mai lui-même, donc une surprise. Et un deuxième élément qui est un élément beaucoup plus structurel, c'est la puissance du clivage gauche-droite à ce moment-là. Le fait que tout est élu à l'aune du clivage gauche-droite, toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient, traçaient une ligne entre deux camps, y compris nos goûts culinaires, nos goûts culturel, nos goûts musicaux. On ne pouvait pas aimer à la fois Michel Sardou et Yves Montand. Je me souviens d'une enquête d'un jeu du Nouvel Observateur de l'époque. Êtes-vous de gauche ou de droite? Une des questions était, est-ce que vous préférez le reblochon ou le camembert? Selon, je ne sais plus lequel des deux était de gauche et lequel de droite,
mais
c'était pour dire à quel point ce clivage était structurant, et donc c'était vraiment la victoire d'un camp sur l'autre. Donc je crois que c'est ça le 10 mai, et c'est ça qui explique que 40 ans après, eh bien ça résonne autant.
Alors il y a l'histoire évidemment, il y a l'héritage, mais d'après vous, Natacha, 40 ans après, pour quelqu'un qui n'a pas voté le 10 mai 1981, ni pour ni contre François Mitterrand, qu'est-ce qu'il en reste? Vous parliez de cet espoir, vous ne l'avez pas ressenti pour des raisons démographiques qu'évoquait Gilles à l'instant, mais est-ce qu'il en reste quelque chose au fond?
Alors, il en reste beaucoup, dans le sens où c'est une période de transformation de la France. Et bon, on cite aisément, évidemment, les grands travaux de François Mitterrand. Je crois que ça fait partie, oui, de quelque chose qui restera. Il y a eu suffisamment de débats autour de la pyramide du Louvre pour qu'on puisse considérer que cette trace même visuelle dans d'inscription dans le patrimoine français est essentielle. Mais derrière ça, derrière les symboles, il y a énormément de choses. Je citais les éléments positifs, les éléments d'émancipation. Ils sont toujours absolument essentiels. Mais je pense que c'est ça qui amplifie d'autant plus le sentiment que en 40 ans, beaucoup de choses ont été abandonnées. Je pense que les malentendus qui se sont forgés à ce moment-là sont ceux dont nous payons les conséquences aujourd'hui.
Et ils sont toujours à vif aujourd'hui. Justement, Gilles, encore un mot avant de changer de sujet.
Encore un mot. Toute l'histoire de la gauche, depuis la première fois qu'elle arrive au pouvoir en 1924, depuis le Front populaire de 1936, à chaque étape, et 1980 n'y fait pas exception, elle est toujours lue à l'aune de la déception, à l'aune de la trahison. Toujours et toujours.
Pourquoi ? Trop de promesses à chaque fois ?
Alors, parce que la gauche a un rapport extraordinairement complexe au pouvoir. Le long remords du pouvoir, ont écrit Alain Bergougnou et Gérard Grimbert pour parler de ce rapport au pouvoir, il y a toujours un rapport où on a l'impression que la gauche n'est là que pour...
Quand on promet de changer la vie ou de mettre du bleu au ciel...
Ce n'est pas seulement ça, c'est parce que gouverner, c'est choisir, et pour une partie de la gauche, gouverner, c'est nécessairement trahir. Le lendemain de la déclaration de politique générale de Pierre Mauroy, dans laquelle était annoncé le plus grand train de réforme de l'histoire de la Ve République, que titrait Libération, journal d'extrême gauche à l'époque, c'était ça et ce n'était donc que ça. Donc c'est toujours comme ça, et c'est toujours comme ça dès le début, avant même qu'elle ait commencé à agir. Et donc, moi, plutôt que les 40 trahisons, malgré tout, c'est plutôt les 40 réformes. Je ne vais pas citer les 40 réformes. Natacha, un peu en décalage par rapport à son journal, citait un certain nombre d'avancées. Ce que les Français retiennent dans le sondage qu'on a publié aujourd'hui, c'est d'abord les réformes sociales. Et des réformes qui s'inscrivent dans toute l'histoire de la gauche, c'est-à-dire dans la conquête du temps libre pour des salariés, c'est la retraite à 60 ans, c'est la cinquième semaine de congés payés, ce sont les 39 heures, la conquête de droits, non seulement de droits sociaux avec les lois Roux, mais de droits pour les femmes, pour les homosexuels, et de la conquête de liberté. On vit dans un monde, et c'est ça, ce sont des réformes qui ont transformé durablement le pays. C'est pas des réformes qui ont été faites et qui ont été effacées, c'est des réformes qui ont transformé durablement
l'abolition de la peine de mort.
Notre pays, évidemment l'abolition de la peine de mort, et qui ont inscrit, et je crois que c'est aussi un élément très important, pour la première fois dans son histoire, la gauche dans la durée.
Natacha ?
Je m'inscris juste en faux sur un point. Le bilan que l'on dresse du Front populaire ne dénote pas ces trahisons. Je veux dire, avec le recul, dans l'immédiat, il y a toujours des gens plus à gauche, plus exigeants qui expliquent que ce sont des trahisons. Là, on parle avec le recul de l'histoire. Et avec le recul de l'histoire, le bilan, c'est tout de même la destruction des classes populaires et des classes moyennes, le recul des droits. Alors, ce n'est pas juste la responsabilité de ce moment-là. Encore une fois, c'est une construction historique sur 40 ans.
Mais justement, restons sur ce moment-là.
Que c'est justement le contraste entre les conquêtes sociales et la dérégulation qui, en fait, vient abolir ces conquêtes sociales.
Et il restera évidemment des images, en l'occurrence celles qui seront réutilisées, notamment par François Hollande le soir de son élection, place de la Bastille, Emmanuel Macron qui va faire son discours et son premier discours solennel le soir de sa victoire devant la pyramide du Grand Louvre. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Nous avons un feuilleton depuis une semaine qui est assez intriguant quand même, avec une arrière-pensée permanente qui en fait est maintenant le fil rouge de la campagne et dont je vais essayer de sortir, qui est la campagne présidentielle. Et maintenant, on a La République en marche, que je respecte aussi, qui se braque en me disant, ben à ce moment-là, j'y vais. Bon, moi je suis LR, je suis ouvert.
C'était Renaud Muselier, président Les Républicains de la région PACA, hier au micro de France Inter, et un scénario, une histoire politique, alors pour le coup tellement compliqué que je compte sur vous, Gilles et Natacha, pour nous aider à y voir plus clair, parce que ça en dit long sur cette campagne des régionales qui a commencé. Donc dans cette région de PACA, il faut remonter à un premier acte que résume très bien France Info sur son site. Le président de la République qui annonce l'abandon de la liste de La République En Marche au profit de la liste Les Républicains. Le Premier ministre, Jean Castex, oui, avec donc la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui s'est donc vue désignée chef de file par La République En Marche dans la région. Acte 2, les Républicains punissent Renaud Muselier pour cette alliance et ils retirent donc leur investiture à ce candidat. Acte 3, les Républicains accordent de nouveau leur soutien à Renaud Muselier, mais sous condition. C'est assez compliqué parce qu'il y a l'acte 4 qui suit juste derrière avec Christian Estrosi et Hubert Falco, deux ténors de la région Les Républicains qui décident de quitter leur parti. Et l'acte 5, c'est le dernier acte, comme dans une grande pièce de théâtre. Mais alors celle-là, à mon avis, aurait vidé la salle. Sophie Cluzel annonce être, je cite, candidate de la majorité présidentielle. Sophie Cluzel ne s'était pas exprimée de la semaine. Elle a pris la parole hier vendredi pour dire la chose suivante. Je suis candidate de la majorité présidentielle et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour. Je n'y comprends absolument rien et pourtant j'ai fait des efforts, Gilles.
Oui.
Pourquoi vouloir revenir sur cet épisode?
Alors, on peut mettre un pied, ou en tout cas un doigt de pied, dans la tambouille, et puis garder quand même un œil sur la perspective. Ce qui s'est passé, c'est bon, de la politique dans ce qu'elle n'a pas toujours de plus noble. Ce feuilleton, vous avez cité les 5 actes, on attend encore l'épilogue, parce qu'en fait, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. Si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, il y avait en fait, je crois, 2 craintes. Celle du président sortant, Renaud Muselier, que l'on a entendu des Républicains, d'être devancé par le Rassemblement National, et la crainte du parti du président, La République En Marche, d'être marginalisé au premier tour. Ces deux craintes, en se rassemblant, espéraient créer un espoir. 8 jours après, la description que vous faites montre qu'il n'y a à l'évidence que des perdants, mais il demeure une incertitude sur l'existence de cet accord. Je pense que ce n'est pas terminé, cette histoire.
Un accord entre La République En Marche et les Républicains.
Et sur les conséquences électorales, en savoir, est-ce que l'addition 1 plus 1, est-ce que ça fait 2? On a vu que ce n'était pas le cas aux élections municipales. Il faudra voir si tel est le cas aux élections régionales. Et puis, si on va un tout petit peu au-delà, si on a, disons, un œil sur la perspective, la promesse initiale d'Emmanuel Macron était une recomposition et un dépassement, et notamment un dépassement de ce clivage gauche-droite que j'évoquais tout à l'heure. On voit aujourd'hui qu'on est encore davantage dans la décomposition, avec notamment les démissions d'Hubert Falco et de Christian Estrosi que vous avez évoquées.
Qui quittent les Républicains, donc.
Et surtout, je crois qu'on est de moins en moins dans le dépassement et de plus en plus dans le déplacement. C'est-à-dire que ce qu'on évoquait sur la droitisation d'Emmanuel Macron, de son électorat, de sa politique, la question c'est jusqu'où cela va-t-il aller sur les alliances. Et je crois que c'est ça un des grands enjeux et un des grands enjeux sous-jacents avec l'élection présidentielle en ligne de mire. On voit que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'aboutir à une scission des Républicains. On voit que la stratégie de Marine Le Pen, c'est d'aspirer cet électorat. On voit que la stratégie de Xavier Bertrand, c'est une stratégie d'affirmation des Républicains. Et on s'interroge sur ce qu'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. A-t-il en tête une coalition? Mais ce qui est fascinant, c'est que tout le monde se concentre sur ce petit noyau électoral que sont les Républicains. Il y a quelques autres électeurs quand même.
Natacha Polony.
Oui, de fait, on est véritablement sur une focalisation, sans doute parce que pour l'instant, la gauche apparaît tellement éclatée qu'elle ne semble pas être un danger pour Emmanuel Macron, qui donc construit sa stratégie de l'autre côté, sachant que nous savons bien que tout le monde a en tête 2022. Le but est de faire en sorte que n'émerge pas à droite un candidat qui puisse se glisser entre le duel annoncé Macron-Le Pen. Ça, c'est le premier point. La question, moi, qui me semble intéressante, c'est de savoir comment les Républicains en sont arrivés là. Parce que,
oui, la crise à droite est fascinante.
Voilà, que des gens rejoignent La République En Marche, je veux dire, d'un point de vue idéologique, ça n'a rien de choquant. En effet, je ne vois toujours pas la différence politique qu'il peut y avoir entre un Renaud Muselier, une Valérie Pécresse et La République En Marche et Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a donc une logique à cela si on se place du strict point de vue idéologique. C'est plus compliqué de l'autre côté parce qu'il y a des tas de gens qui sont, on va dire, des conservateurs libéraux pour certains, conservateurs identitaires pour d'autres, à la droite des Républicains, qui pour autant ne sont pas forcément absorbables dans le Rassemblement National, même si en fait, si on en arrive là, c'est bien parce que une part des problèmes n'ont pas été pensés par les Républicains et par l'UMP avant, c'est-à-dire c'était un attelage hétéroclite, hein, RPR plus UMP, c'est-à-dire deux conceptions radicalement différentes du pouvoir, de la droite, du libéralisme, etc.,
oui.
qui ont été fusionnées. Donc qu'à un moment donné, cette fusion se défasse parce qu'il n'y a pas de logique idéologique, c'est normal, surtout parce que, justement, tout le monde a évité de poser le problème sur la table, et notamment le problème du rapport au libéralisme, à l'Union européenne, et tout cela. Et c'est ça qui aboutit à ce qu'une partie s'en aille du côté du Rassemblement national, qui absorbe tout ça, là aussi. Mais c'est au Rassemblement national maintenant qu'il y a des incohérences idéologiques. C'est-à-dire
oui.
qu'on a la fusion du vieux Front National et de certains qui, normalement, autrefois, seraient allés au RPR. Or, il y a incompatibilité entre ces deux positions-là.
Alors, c'est très compliqué, mais en tout cas, peut-être qu'on y verra plus clair les 20 et 27 juin prochains. Je rappelle que ce sont les jours des deux tours des élections régionales. Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
L'écriture inclusive est excluante, au moins à un autre titre. Elle est inadaptée aux élèves présentant des troubles d'apprentissage. Aussi, la typographie de l'écriture inclusive, une typographie qui ne se lit pas, qui ne se dit pas, cette typographie n'a en vérité aucunement sa place dans notre école.
Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, c'était lors d'un débat organisé au Sénat avant-hier, et l'écriture inclusive est un sujet dont je sais qu'il vous passionne, Natacha et Gilles. Je voulais qu'on en parle rapidement puisqu'il y a donc eu cette circulaire publiée jeudi au bulletin officiel, c'est donc très solennel, qui proscrit le recours en classe à l'écriture inclusive, et particulièrement ce point médian qui en fait l'une des caractéristiques et l'un des charmes. Jean-Michel Blanquer avait déjà, avant de publier cette circulaire, mis en avant que les points au milieu des mots étaient un barrage à la transmission de notre langue pour tous. Une décision que vous accueillez avec soulagement, Natacha ?
Non, pas avec soulagement. En revanche, c'est intéressant d'analyser les réactions. Premier point, cette circulaire précise qu'il faut féminiser les noms de fonction, qu'il faut développer tout ce qui, dans la langue, fait apparaître la mixité. Donc, je trouve qu'au contraire, c'est une circulaire intéressante de ce point de vue-là qu'on oublie toujours.
Oui.
En revanche, on entend certains syndicats pousser les hauts cris en disant « Mais de toute façon, pourquoi cliver avec ce sujet-là alors que c'est marginal ? » Ben, si c'est marginal, justement, c'est pas la peine de s'énerver. Or, le Sud Éducation, par exemple, a publié un communiqué exigeant du ministre, je cite, qu'il cesse d'essayer d'imposer son passéisme à la communauté éducative, et il appelle les personnels à ne pas tenir compte de ses instructions d'un autre temps. C'est quand même assez formidable. Donc, on nous explique que c'est marginal, mais quand même qu'il faut le développer. Juste un point.
D'un mot.
Moi, j'ai vu, en tant que professeur dans le supérieur, des bacheliers arriver, ne sachant pas identifier un verbe dans la phrase, mettant le pluriel des noms communs en ENT. Ce sont des véritables difficultés qui sont un handicap. Donc, je pense que les noms de fonction, les féminiser, c'est essentiel. En revanche, ajouter de la complexité, c'est dangereux. Et même si un petit nombre de professeurs le fait, eh bien, ils n'ont pas à le faire parce que, tout simplement, il y a des programmes scolaires et que la liberté pédagogique s'arrête là où commencent les programmes que la nation a décidé de mettre en avant pour aider tous les enfants à s'émanciper.
Avant de franchir le Rhin avec notre invité, d'un mot, Gilles.
Oui, d'un mot. Bon, la langue ne détermine pas une pensée, mais elle produit des effets. Et donc, une des questions est de savoir si on peut avoir une langue qui soit plus égalitaire, plus inclusive. Il y a la question du lexique, c'est-à-dire des mots qu'on utilise. Le fait de féminiser une fonction, de dire madame la ministre et pas madame le ministre. De féminiser les métiers, de dire pas un écrivain, mais une écrivaine. De ne pas parler des droits de l'homme, mais de parler des droits humains. Tous ces éléments-là qui aujourd'hui nous paraissent justes, rien de ça ne s'est fait spontanément. Tout ça, ça a été des combats, et ce qui paraissait incongru il y a 10 ans paraît naturel aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser que les choses se font naturellement. Deuxièmement, il y a la grammaire. La grammaire, c'est-à-dire les accords. Le fait qu'on dise, par exemple, les petits garçons et les petites filles sont beaux. et on dit pas sont belles. C'est-à-dire que le masculin l'emporte sur le féminin. L'écriture inclusive, c'est aussi de faire des accords de proximité. Et donc, si on dit les garçons et les filles, on dit les garçons et les filles sont belles. Bon, et donc ça, c'est interdit. En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi. Je trouve que ce n'est pas plus compliqué et que c'est plus juste. Et puis, il y a le fameux point médian. Donc, je termine par ce fameux point médian. Oui. C'est-à-dire des signes qui essaye de témoigner que vous vous adressez à la fois aux hommes et aux femmes. On le fait tous depuis longtemps. Quand on met « chers amis » dans un mail avec le « e » entre parenthèses, c'est une forme de signe qui montre qu'on s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Et donc le point médian est une de ces illustrations. Je crois que c'est ça qui est interdit aujourd'hui. Dès lors qu'il garde de la lisibilité. Quand on dit « chers amis » avec un point médian, on lit. Ça ne me pose pas de problème. Quand on dit « tous les travailleurs et toutes les travailleuses et que ça devient incompréhensible, à ce moment-là, c'est un problème.
Il est midi et demi et le débat va commencer avec notre invitée. Elle est grande reporter, elle nous dira en tout cas comment désigner son travail. Autrice, auteure, Marion Van Rettergem est dans le Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face. Le débat.
De quoi Angela Merkel est-elle le nom? Fin de partie dans quelques mois pour la chancelière allemande. Ce n'est donc plus qu'une question de temps pour celle qui achève son quatrième et dernier mandat à la tête de l'Allemagne. Et peut-être un premier bilan dans le grand face-à-face, à la fois de la politique, de l'idéologie, des grandes orientations qu'elle a portées, qu'elle a incarnées à l'échelle de son pays et bien sûr de l'Europe. Marion Van Rettergem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, en tout cas, vous êtes lauréate du prix Albert Londres et vous connaissez parfaitement l'Allemagne, spécialiste des questions européennes. Vous publiez une biographie qui est passionnante de la chancelière allemande. Le titre, c'était Angela Merkel. Il faut en parler déjà au passé. C'est pourtant un livre qui paraîtra mercredi prochain aux éditions Les Arènes. On va en parler parce que c'est un personnage fascinant et qu'on avait envie de faire ce travail de politique et d'histoire comparée entre la France et l'Allemagne. Puisque vous êtes une spécialiste de l'Europe et que nous sommes le 8 mai et que nous avions tous en mémoire le 10 mai 1981, les premiers discours de François Mitterrand, écoutez sans doute celui qui était le dernier discours de François Mitterrand prononcé à Berlin le 8 mai 1995.
Je ne suis pas venu célébrer la victoire dont je me suis réjoui pour mon pays en 1945. Je ne suis pas venu souligner la défaite parce que j'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons, nous aimons nos patries, restons fidèles à nous-mêmes, relions le passé et le futur, et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin à ceux qui vont nous suivre. Merci.
Marion Van Rettergem, il faut souligner que ça se passait à Berlin avec des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, des États-Unis, donc des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et en présence du chancelier allemand. Qu'est-ce que ça représente le 8 mai 1945, cette date du 8 mai pour un Allemand aujourd'hui et comment est-ce que vous recevez ce discours de François Mitterrand?
Je trouve que c'était un très beau discours d'Européen. Que chacun devrait avoir en tête. L'histoire, c'est l'histoire. Le 8 mai n'est pas célébré en Allemagne, évidemment, puisque c'est notre victoire, c'est la fête de la victoire des Alliés et de la capitulation allemande. Donc, pour eux, ce n'est pas un événement qu'on célèbre. Ils pourraient pourtant le célébrer, puisque c'est aussi la victoire contre le nazisme, et c'est une libération pour l'Allemagne. Mais ils sont peut-être plus modestes que nous, qui avons eu aussi tendance à nous approprier une victoire collective en 1945, alors qu'une grande partie de la population avait quand même aussi collaboré. Le général de Gaulle avait emporté les Français dans un grand élan collectif, et c'est tant mieux, qui fait que la victoire est celle du pays tout entier. Mais l'Allemagne, plus modestement, a choisi d'oublier, enfin pas d'oublier, parce qu'on ne peut pas dire que l'Allemagne est dans l'oubli, au contraire, ils sont dans une culpabilité permanente qui tend, et là on va vers Angela Merkel, qui tend un peu à s'amoindrir avec le temps, les générations passent, et ce sentiment
de culpabilité
allemand tend finalement à pas à être mis sous le tapis, parce que c'est quelque chose d'extrêmement présent et quelque chose qui a présidé à une construction exemplaire de la démocratie allemande, ce côté plus jamais ça. Ils ont tout mis en forme et tout institutionnalisé pour que jamais un grand leader puisse prendre le pas et entraîner le pays dans des guerres criminelles. Donc on ne peut pas dire que c'est oublié, mais malgré tout, ils vivent avec ça de mieux en mieux, et la chancelière allemande est le symbole d'une nouvelle génération, puisque c'est la première à être née vraiment après la guerre. Schröder, avant elle, était né en 44, donc là, un peu, il n'a pas connu la guerre, mais il était quand même encore de cette génération. Elle est vraiment la première où le pays est totalement sorti de cette histoire.
Et j'allais vous en parler justement avant de donner la parole à Gilles et Natacha, parce que dans l'itinéraire, l'histoire passionnante d'Angela Merkel, elle est née dans un pays qui a disparu. Elle est née en RDA, en République démocratique allemande. C'est la raison pour laquelle je vous demandais comment est-ce qu'on se rapportait au 8 mai en Allemagne. C'est un jour de défaite, évidemment, mais c'est aussi un jour de libération pour ceux qui ont très vite rejoint le camp soviétique. Et alors particulièrement pour la famille Merkel, puisqu'on découvre, en vous lisant, que c'est un choix du père d'Angela Merkel d'aller s'installer à l'Est.
C'est un paradoxe au départ de la destinée d'Angela Merkel, et qui explique beaucoup de choses, bien que la personnalité d'Angela Merkel, qui me fascine par sa complexité justement, et parce qu'elle rassemble énormément d'éléments contradictoires, dont la grande partie de son énigme se trouve dans cette Allemagne de l'Est, et aussi dans le fait que à l'intérieur de cette Allemagne de l'Est, elle était la fille d'un pasteur protestant et d'une famille née à l'Ouest, qui par choix idéologique, pour épouser le socialisme de la DDR, la RDA, la République démocratique allemande, a choisi, contrairement au mouvement naturel qui était en général de quitter l'Est vers la liberté, vers l'Ouest, ils ont choisi l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est née à Hambourg, et quand elle a eu quelques mois, toute la famille a déménagé vers l'Est, où elle a été éduquée, où elle a passé la majorité de sa vie, puisqu'elle a passé plus de temps de sa vie sous la dictature qu'en liberté.
Ils étaient assez peu à avoir fait ce choix, et c'est vrai que c'est assez fascinant quand on pense qu'elle est devenue celle qui est à la tête d'un des partie de droite les plus puissants d'Europe, et qu'elle a profondément marqué évidemment la politique allemande, et bien au-delà, puisque c'est la première puissance économique européenne, bien au-delà évidemment autour d'elle, ses voisins, Gilles Finkelstein puis Natacha Polony.
Oui, il y a 15 jours on recevait Patrick Veil, et je lui ai commencé en lui disant que grâce à lui et grâce à Aristide Briand, il avait fait un livre formidable sur la laïcité. Je reprendrai volontiers la même chose grâce à vous et grâce à Angela Merkel. Cette biographie est vraiment formidable. Alors elle est écrite avec bienveillance, mais avec lucidité aussi, on y apprend. C'est intéressant parce qu'on y apprend beaucoup de choses et on y comprend beaucoup de choses. Et c'est même un livre assez joyeux, ce qui est assez rare dans une biographie politique.
Et surtout concernant quand on pense au sujet.
Surtout quand on pense au sujet, c'est vrai que c'est pas ce qu'on
pense.
Elle est plus marrante qu'on ne croit.
Voilà, oui. C'est ça, c'est ce qu'on découvre, c'est qu'elle est plus marrante qu'on ne croit. Vous avez évoqué à la fois le côté l'Allemagne de l'Est et la fille d'un pasteur, et à quel point ça avait été important. Mais il reste une espèce de mystère malgré tout autour de cette femme qui, vous le dites vous-même, est peu charismatique, dont les discours sont extraordinairement monotones, qui parle peu. Mais dont vous montrez qu'elle est une politicienne redoutable, vous parlez même d'une serial killer. Elle est une chancelière populaire après 16 années à la tête de l'Allemagne, populaire en Allemagne, et elle est reconnue parmi ses pairs. C'est quoi la méthode Merkel ?
Marion Van Rentekam.
Alors la méthode Merkel, c'est essentiellement une méthode d'écoute, de négociation, de compromis. C'est là qu'elle est extrêmement différente de tous ces leaders à qui elle tient tête, paradoxalement, ces mâles pleins de testostérone que sont Poutine, Trump, ou même le président Obama, avec qui elle a eu maille à partir. Tous ces grands mâles des G7 et des G20 et des G8, elle y oppose une méthode extrêmement...
Obama est le seul à lui avoir tiré les larmes des yeux.
Voilà, si vous voulez que je raconte cette anecdote, mais qui est en effet assez caractéristique, c'est-à-dire qu'on a toujours... On se souvient, il y a des images très frappantes de Trump et Merkel. Trump détestait Angela Merkel et c'était réciproque, quoique elle a la courtoisie de ne jamais l'avoir dit. Et ses conseillers sont toujours dans l'atténuation quand on pose la question. Et donc il y avait un affrontement très très direct avec Trump, mais enfin c'était la nature de Trump d'être dans l'agressivité permanente. Et avec Obama, qui est un peu notre idole à tous, qui était le président américain que nous avons tous adoré, qui avait le charisme, la beauté et l'intelligence et la mesure, était bizarrement incroyablement arrogant, condescendant, et c'est le seul en effet qui a failli faire, enfin qui a mis les larmes aux yeux d'Angela Merkel. Ça m'avait été raconté par des conseillers qui étaient à l'extérieur d'une réunion en cercle restreint entre leaders européens et le président Obama au moment de la crise de l'euro. Et ils voyaient sur grand écran le visage de la chancelière qui était coincée, émue aux larmes, parce que pendant donc la crise de l'euro, Obama lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais agis sur ta dette, sur ta banque centrale, règle-nous ce problème, etc. » Et Merkel était exaspérée d'abord de la manière dont il osait lui parler, la traiter, et elle disait « mais je ne peux pas ». J'ai dit les Américains ont dicté à l'Allemagne le respect de l'état de droit, le respect de la Constitution, l'emprise de la Constitution sur le gouvernement, et dans la Constitution allemande, le gouvernement n'a pas de prise sur la Banque centrale. Et elle disait tu me demandes quelque chose que je ne peux pas faire et que vous, les Américains, les alliés, m'avez obligé à ne pas faire. Et elle était au bord des larmes, et un autre conseiller m'a dit « je ne l'ai jamais vue dans un état de colère, elle était rouge de colère face à la manière dont Obama la traitait ».
Je vais donner la parole à Natacha dans un instant, mais ça répond à votre question, Gilles ?
Ça répond pour partie à ma question, je crois qu'on le voit vraiment très bien dans le livre. C'est moi, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont elle a réussi à traiter les problèmes dès leur origine et à les traiter de manière bilatérale. C'est dès qu'elle voit un adversaire, c'est ça que vous décrivez et que je trouve très, très intéressant, et le côté extraordinairement pragmatique, concret, de ne pas faire des discours, mais d'essayer de résoudre toujours des problèmes.
Pour l'anecdote, le président Emmanuel Macron a pris la parole 3 fois plus de fois qu'Angela Merkel depuis le début de la pandémie. Et c'est vrai que sa parole est relativement rare, même si elle n'a pas les mêmes compétences qu'un président de la République française. Natacha Polony.
On voit dans votre livre, vous venez de l'exprimer, sans doute une forme d'admiration, et c'est vrai, et d'intérêt pour cette femme qui se retrouve très souvent dans un monde d'hommes, puisque cette dimension-là apparaît assez souvent dans votre lecture des événements, et c'est vrai que je pense qu'elle est importante. De même d'ailleurs que c'est la dimension, et vous l'avez dit aussi, profondément démocratique du système allemand, qui oblige au compromis, qui oblige à respecter certaines règles et qui ne met pas en valeur en effet la testostérone, l'appétit de pouvoir. Pour autant, la question que je me pose à la fin de votre livre, c'est de savoir si ce n'est pas la crise du coronavirus, dont vous dites qu'elle correspond parfaitement à une dirigeante comme Angela Merkel, et on a vu à quel point en effet elle a bien géré cela. Est-ce que ce n'est pas cette crise du coronavirus qui nous fait relire en partie le bilan d'Angela Merkel, dans le sens où avant cette crise, qui a permis à l'Allemagne de mettre en avant sa puissance industrielle, de montrer sur le long terme ses atouts. Avant cela, le bilan d'Angela Merkel n'était peut-être pas aussi florissant que cela, puisqu'on était en train de constater l'absence totale d'investissement, la décrépitude des infrastructures, la montée de l'AFD qui tout de même n'est pas un petit phénomène. Et sur le plan écologique, les erreurs, là aussi, vous êtes assez indulgente sur le choix d'abandonner mener le nucléaire, c'est tout de même là aussi un élément essentiel. Donc il n'y a pas, est-ce que en gros la crise du coronavirus n'a pas été utile à Angela Merkel de ce point de vue-là?
Marion Van Rentergem.
Alors j'aurais beaucoup de réponses à faire parce qu'il y a beaucoup de questions dans la vôtre. Je répondrai non à peu près à tout parce que disons déjà la crise du coronavirus n'est pas forcément une crise de laquelle Angela Merkel sort particulièrement brillante. Il y a eu plusieurs vagues, comme on le sait, nous en avons été victimes nous aussi. L'Allemagne a été érigée en modèle absolu et Merkel en une sorte de déesse tombée du ciel au moment de la première crise en mars 2020. Je pense qu'on lui a attribué d'ailleurs à tort le mérite d'avoir géré cette crise et on l'attribuait beaucoup aussi au principe du fédéralisme allemand, c'est-à-dire à la fluidité, au fait que la santé n'étant pas une compétence fédérale comme elle n'est pas une compétence européenne non plus, c'était les États qui avaient la main mise sur la gestion du coronavirus et on a beaucoup vanté la fluidité entre les Länder et la manière dont ça se passait entre le public, le privé. On a découvert aussi que le service de santé allemand était largement, avait détrôné la France qui était pourtant un mythe français, ce service de santé. Autant donc je pense qu'on a négligé au moment de la première crise le facteur chance qui fait que l'Allemagne a eu beaucoup de chance d'être frappée après notamment l'Italie du Nord et la France qui avait ce cluster de Mulhouse. L'Italie du Nord était frappée d'abord parce que la Lombardie était en échange direct avec la Chine. Donc l'Allemagne a eu la chance d'arriver un peu en retrait et d'avoir eu le temps de se préparer. Donc Angela Merkel n'était pas vraiment pour quoi que ce soit dans cette gestion, sinon par son style. C'est vrai que ces discours qui tranchent avec les discours à la française auxquels nous sommes habitués, ce calme, cette précision, plus le fait qu'elle est une scientifique de formation, donc elle donnait le sentiment de maîtriser totalement l'avancée des courbes. Elle pouvait expliquer le R+2, le R+3, le R+4.
Oui, les courbes exponentielles du mécanisme de contamination.
C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo extraordinaire d'Angela Merkel expliquant les courbes comme si elle donnait un cours de physique. Donc, mais en revanche, voilà, l'Allemagne ne s'en tire pas beaucoup mieux que la France maintenant. Alors tout d'un coup, on dit ce qu'on avait vanté comme étant les mérites du fédéralisme. On dit, ah bah oui, c'est à cause du fédéralisme. Les Länder se sont tirés dans les pattes. D'ailleurs, Angela Merkel elle-même devenait enragée à la suite de réunions qui duraient 8 ou 9 heures avec les présidents des Länder, sur lesquels elle n'a pas un grand pouvoir. C'est aussi ça, à chaque fois, on a une lecture déformée en France. On essaye de projeter le pouvoir du président de la République sur la chancelière. Elle n'a pas du tout le même pouvoir.
C'est ça qui est intéressant, justement. C'est que j'aimerais qu'on fasse ce petit travail de comparaison que vous faites.
J'ai pas répondu à toutes les questions de Natacha Polony, mais je sais pas par quel bout les prendre.
Non, mais parce qu'elles sont nombreuses. Il y a des questions de fond, ouais. Évidemment, mais c'est vrai que la question de Natacha portait également sur son exercice du pouvoir, sur la manière dont elle se rapportait à sa population. Vous écrivez que c'est pas une leader destinée à enchanter, ni une visionnaire architecte de grands desseins, ni une téméraire capable de grandes audaces. Elle a le génie de la juste mesure et de la persévérance. Son manque d'éclat déroute. En fait, on a l'impression que c'est l'anti-Jupiter, l'anti-président français. On entendait tout à l'heure François Mitterrand qui était appelé Dieu, je pense, pour les caricaturistes de l'époque. On parle de Jupiter aujourd'hui. Et alors, sur le fond, c'est l'inverse d'un président français, Angela Merkel. Et vous dites pourtant que Merkel est un Macron avant la lettre.
Elle est à Macron avant la lettre par le fait qu'elle a rassemblé la droite et la gauche. Elle n'a pas dit ni droite ni gauche, mais elle a de fait incarné une forme de en même temps, avant le en même temps macronien, en se retrouvant à la tête de grandes coalitions, ce qui était un principe qu'on ne comprend absolument pas en France, qui est le fait que le premier ministre, elle est première ministre en fait, Angela Merkel, elle est pas chef d'État, elle est chef de gouvernement.
Il y a un président.
Il y a un président qui a d'autres fonctions non exécutives. Elle s'est retrouvée souvent à la tête des deux partis les plus opposés, c'est-à-dire le SPD, le Parti social-démocrate, et la CDU, le parti chrétien-démocrate. Les deux grands partis, quand je dis les plus opposés, c'est pas vrai, parce que ce sont au fond des partis un peu centristes à l'allemande, un peu de centre-gauche et de centre-droit, avec comme en France des ailes un peu plus extrêmes de chaque côté des partis. Mais elle s'est retrouvée donc souvent à la tête de ces deux partis, donc où les partis étant adversaires deviennent partenaires au gouvernement, et c'est ce qui aussi facilite et procède, enfin je ne sais pas par où on commence, mais fait cette espèce de... ce don allemand, cette capacité allemande à toujours accepter le compromis, à ne prendre des décisions qu'au terme de négociations extrêmement avancées, ce dont on est incapable en France. Donc là où elle a été précurseuse de Macron, c'est en effet qu'elle est devenue... Merkel n'est pas vraiment une femme de droite. Elle vient de ce parti conservateur qu'elle a d'ailleurs largement contribué à moderniser, à le tirer vers la gauche, dirait-on à la française. Et elle s'est retrouvée à prendre des idées du Parti social-démocrate, à les appliquer au gouvernement, à prendre certaines idées de la CDU. Et finalement, elle est merkelienne, ni de droite, ni de gauche.
Merkelienne, c'est une manière de dire pré-macroniste. Natacha, je vous ai interrompu justement puisque vous vouliez poursuivre. Et puis,
préciser, peut-être en ciblant sur une des questions parmi celles que je vous posais, est-ce que le bilan d'Angela Merkel, le vrai bilan, n'est pas finalement extrêmement mince parce qu'elle a géré, tout simplement.
C'est vrai que c'est tout à fait une critique qu'on peut faire à Angela Merkel. D'ailleurs, c'est la critique que lui opposent les écologistes et le Parti social-démocrate qui sont en course pour le pouvoir. Et que Merkel, finalement, sa grande qualité était avant tout d'être une gestionnaire de crise. C'est tout à fait exact. Et elle a d'ailleurs enchaîné les crises. En 16 ans, on peut dire son bilan n'a été, son règne n'a été qu'une succession de crises européennes et mondiales permanentes.
16 ans, elle aura connu 4 présidents français.
4 présidents français, et on peut compter les présidents américains, britanniques et italiens. Et qu'elle est en effet gestionnaire avant d'être visionnaire. Et en cela, d'ailleurs, dans le duo franco-allemand, ils sont extrêmement complémentaires. Le français est un peu lyrique et part à la cavalcade, et l'allemande réfléchit, analyse et attend.
Et elle décide à la fin.
Et elle décide.
Gilles.
Oui, on va voir si vous me répondez non, comme vous avez répondu à Natacha. Angela Merkel est une Européenne incontestable. Est-ce qu'elle n'a pas, malgré tout, été une Européenne décevante? Au sens où la méthode que vous avez évoquée, cette prudence, ce pragmatisme, ne se sont-ils pas traduits par une lenteur dommageable pour l'Europe, dans les grandes crises que vous avez évoquées, celle de 2008, la crise financière, la crise de la dette en 2010, et dans le retard à répondre au discours de la Sorbonne et aux propositions d'Emmanuel Macron, puisque c'est à l'occasion de la crise sanitaire qu'elle a fait le pas sur la mutualisation des dettes. Donc, est-ce que au final, ce n'est pas une Européenne un peu décevante quand même?
Marion Van Rentergem.
Alors, je dirais que, paradoxalement, Angela Merkel incarne aux yeux du monde la figure de l'Européenne. C'est elle que Obama va voir quand il s'en va, c'est à elle qu'on pense, c'est elle qui incarne le visage de l'Europe. Et je suis d'accord que ce n'est pas, bizarrement, la meilleure Européenne. C'est encore une fois lié...
En quel sens ?
Ça n'est pas la meilleure Européenne dans le sens où, d'abord, elle n'a pas cette culture rhénane qu'avaient tous les précédents chanceliers allemands qui étaient frontaliers de la France, qui étaient nés en Allemagne de l'Est, qui étaient dans une espèce de culture commune évidente. Elle vient d'un pays qui était totalement coupé de l'Europe, qui avait été victime de cette déchirure d'après-guerre. Elle a vécu sous la dictature. Elle est arrivée comme chancelière aussi après l'élargissement, donc dans une Europe qui n'était pas du tout le club des 6 des membres fondateurs. Elle ne connaît qu'une grande Europe, qu'un grand marché. Elle est arrivée là-dedans. Elle a, en effet, je pense qu'elle a énormément évolué. Et c'est là que je dis que son quatrième et dernier mandat est celui qui, certains on dit, elle a fait le mandat de trop, voilà, elle va s'effondrer. Mais pas du tout, pour moi, elle a fait le mandat en plus, elle a fait le mandat qui lui manquait pour s'accomplir comme Européenne. Elle s'est accomplie comme Européenne, on l'a vu au moment du plan de relance européen qui a été largement, qui doit beaucoup à l'initiative d'Emmanuel Macron.
Qui doit beaucoup, mais elle aussi.
Et à elle aussi, parce qu'elle ne s'est pas fait tordre le bras. Enfin, c'est vrai qu'Emmanuel Macron...
Mais c'est elle qui a fait sauter les dogmes intangibles de l'Union Européenne. Exactement. Les 3%, les 60%, ça c'est une décision allemande.
Les dogmes, vous parlez de ces dogmes-là, et il y a aussi le dogme absolu qui était la mutualisation des dettes, qui était absolument impensable en Allemagne avant Merkel. Et Merkel, avec sa lenteur qu'on peut lui reprocher, je pense qu'elle est éminemment critiquable pendant la crise grecque que vous mentionniez tout à l'heure, elle a fait énormément de ratés, elle s'est comportée, elle a donné beaucoup trop d'importance aux contribuables allemands dans les premières années de son règne, elle a été un peu calculatrice, un peu mesquine, un peu toujours, je me souviens d'une réunion pendant la crise de l'euro à l'Élysée où Sarkozy avait convoqué des leaders européens et le président de la Banque Centrale Européenne et aussi Gordon Brown, le britannique à l'époque. Et la crise était en train d'éclater et Merkel disait « Oui, non mais moi, mes lenders, les banques dans mes lenders, ça va ». Et on se disait, mais elle ne comprend pas. On parle d'une crise mondiale et elle nous parle de ces lenders. Donc c'est vrai qu'elle avait, elle a mis du temps à, parfois, elle était lente à la détente, mais elle a le cerveau
et
bien
pas
fait.
Au moment de la crise des réfugiés.
Voilà. Et je pense que il y a eu un moment. Alors certains diront que elle a fait du mal à l'Europe à ce moment-là. Pour moi, c'est le contraire. Je pense que la crise des réfugiés, elle a sauvé l'honneur de l'Europe. Elle a sauvé, elle nous a sauvé d'une lâcheté incommensurable des autres dirigeants européens qui lui reprochent avec une mauvaise foi sans limite d'avoir fait cavalier seul alors qu'elle a appelé à la solidarité et qu'elle s'est fait opposer non pas un nein, mais un non bien français. C'est-à-dire qu'elle a dû gérer cette crise elle-même. Elle n'a pas ouvert les frontières, mais elle n'était pas en mesure de les fermer, étant donné l'ampleur des réfugiés qui arrivaient. Et l'Allemagne peut s'enorgueillir. J'ai encore rencontré avant-hier en Allemagne un réfugié qui venait d'Afghanistan et qui était arrivé en 2015 et qui avait presque les larmes aux yeux en me disant, mais merci, Madame Merkel. Il se trouve maintenant, il va travailler au Bundestag. Il fait partie de ces trois quarts de réfugiés, du million de réfugiés accueillis par l'Allemagne qui ont trouver un emploi et qui éprouvent de la gratitude envers Angela Merkel. Et j'avoue que moi, en tant qu'européenne, je lui suis reconnaissante d'avoir ainsi sauvé notre honneur.
Il nous reste une poignée de minutes. Question courte, réponse courte. Natacha Polony.
Question courte, vous dites l'Allemagne ne veut pas être leader mondial et en effet, ça paraît évidemment. En revanche, est-ce que l'Allemagne ne veut pas être la principale puissance en Europe, ce qu'incarne Angela Merkel dans la mesure où elle incarne le fait que l'Allemagne désormais est un pivot davantage tourné vers son hinterland. Vous parlez du lien d'Angela Merkel avec la Pologne. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement la marque d'une bascule qui n'est pas seulement le fait d'ailleurs d'Angela Merkel ou des Allemands, mais qui vient de la faiblesse française, de l'histoire et de l'intégration des pays de l'Est. Mais est-ce que, finalement, elle n'a pas une façon de gérer ce fait-là qui est éminemment nationaliste ?
Marion Van Rentergem.
Vous avez, Natacha Polony, vous avez intitulé, le titre de votre magazine, il y a quelques semaines, était pourquoi ou comment la France se laisse tondre ou comment l'Allemagne tond la France, je ne sais plus comment c'était posé.
Oui, sur des questions de, en effet, nous citions beaucoup de faits, par exemple.
Comment l'Allemagne tond la France,
défense,
c'est ça.
Voilà. Sur le nucléaire aussi.
C'était une couverture de Marianne.
C'est ça. Et moi, je pense que la question que, si je me permets, si j'étais à votre place, qui ne me risque pas de m'arriver, j'aurais posé la question autrement, j'aurais dit, pourquoi la France se laisse tondre?
Parce que c'était inclus.
je trouve que c'est une question, comment dire, éminemment française. On a toujours le sentiment en France qu'on considère que le premier élève de la classe est responsable de la déficience du dernier pour se dédouaner, en gros, de ses propres défaillances. Je me demande, moi, pourquoi est-ce que tous les dealers de banlieue ou les cadres moyens français, les cadres supérieurs français veulent tous des Porsche, des Mercedes et des Audi? Est-ce qu'il ne faut pas mieux poser la alors que les voitures allemandes sont plus chères, alors que les salaires sont les mêmes, les ouvriers sont mieux payés dans l'automobile allemande que dans l'automobile française. Donc, est-ce que ce n'est pas toujours très français d'essayer de reprocher à l'Allemagne sa puissance économique? En effet, elle a mieux réussi, elle s'est beaucoup mieux adaptée à la mondialisation que ne l'a fait la France. Quand vous dites, est-ce que c'est nationaliste, l'Allemagne défend ses intérêts, je pense qu'on ne demanderait à aucun leader, et surtout pas un leader français. Je pense que votre magazine Marianne ferait un gros titre si Macron était plus européen qu'il n'est français et s'il ne défendait pas les intérêts français.
Les leaders français ont toujours défendu davantage justement l'idéal européen que la simple défense des intérêts purement français.
Mais il faudrait regarder les balances commerciales des deux pays.
L'idéal européen,
c'est un problème français.
Parce que l'idéal européen permet aux intérêts français de se développer. Ça, c'est une autre...
Gilles,
il faut une autre émission.
Dernière question pour moi. En septembre, Angela Merkel ne sera plus chancelière. Elle a choisi d'arrêter, ce qui est absolument exceptionnel dans l'histoire politique allemande. Elle va vraiment arrêter. Vous dites qu'elle va vous manquer. Dans l'interview qu'il vous a accordée, Emmanuel Macron dit qu'elle va lui manquer. Est-ce que les Allemands ont compris, ont intégré qu'Angela Merkel ne serait plus là? Et dans quel état laisse-t-elle son parti et son pays?
Son parti pas en très bon état, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle était cette politique du en même temps. D'ailleurs, on en voit quelques échos chez nous, a tendance à effacer l'identité de chaque parti. On voit que le Parti social-démocrate est en dégringolade totale en Allemagne. La CDU n'est pas en bon état, même si elle est encore en tête des partis. Cela dit, donc on peut le reprocher à Angela Merkel, mais ça n'est pas non plus un phénomène spécifique à l'Allemagne, parce que tous les grands partis, ce qu'on appelle en Allemagne les Volkspartei, ces grands partis populaires et ces grands partis qui structurent l'Europe d'ailleurs, que sont un grand parti chrétien-démocrate et un grand parti social-démocrate. Partout, on voit la dislocation de ces grands partis au profit de petites formations. Donc, en effet, elle n'a pas fait du bien à la CDU. Oui, elle a fait du bien à son pays parce que elle n'a pas fait grand-chose, comme vous le disiez, Natacha et vous. Elle n'a rien réformé. Elle a surfé sur des réformes qui avaient été faites précédemment par Schröder. Mais elle a accompagné la prospérité de l'Allemagne. Elle a installé la puissance allemande au cœur de l'Europe. En cela, elle a fait du bien à l'Europe et du bien à la France par ricochet.
Par ricochet. Donc, c'est un débat que vous aurez avec Natacha Polony à la question qu'on lui posait. Que voulez-vous que les livres d'histoire retiennent de vous dans 50 ans? C'était fascinant de voir la réponse d'Angela Merkel à cette question. Elle a répondu, elle n'a pas ménagé sa peine. C'est étonnant pour un chef de gouvernement aussi puissant et qui aurait exercé le pouvoir aussi longtemps. Merci infiniment en tout cas à Marion van Rettergen d'être venue dans le grand face-à-face. C'était Angela Merkel et publié aux éditions Les Arènes. Vous pouvez choisir la couleur de votre couverture. La mienne est orange et ce sera disponible mercredi en librairie. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à toute l'équipe du grand face-à-face. Rendez-vous demain dans Questions politiques avec Thierry Breton.